Bonjour, notre émission Vendémiaire de ce jour est consacrée à la radiodiffusion d'une conférence que Roger Pestori, acteur de ces événements, a donnée sur le thème « La résistance communiste pendant la Deuxième Guerre mondiale » avec comme titre « Le poids des mots ». Cette conférence a eu lieu le 30 novembre 2007 dans le cadre de la manifestation organisée par l'association Les Amis de l'Histoire Rencontre, livre en résistance à la médiathèque Jean Prévost de Bron. Le récit de Roger Pestori a l'avantage de vous plonger dans ce qu'il en était réellement du climat et de l'ambiance en cette période du début de la guerre pour un jeune militant, climat et ambiance qu'il est bien difficile de se représenter avec justesse, même à travers des ouvrages. Le poids de la parole, du vécu et du ressenti que nous restitue si bien Roger Pestori est sans égal pour ressentir ce qu'il en fut de cette période. Roger Pestori est décédé le 17 janvier 2011, soit il y a plus de 5 ans maintenant. Cette émission est la première d'une série de 2 consacrée à cette conférence. Elle couvrira la période allant de 1936 au 12 mars 1943. En introduction, vous allez entendre la chanson « Frère attention » de Jean Dréjac, interprétée par lui-même, et les intermèdes musicaux qui suivront seront différents extraits de la 7e symphonie de Chostakovitch, enregistrée en URSS par un orchestre soviétique. Nous terminerons l'émission sans autre intervention de notre part avec le texte de Paul Éluard Au nom du front parfait profond, mis en musique par Joël Holmès et interprété par Claude Vinci. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
Du ventre encore chaud de la bête immonde, des monstres nouveaux sont prêts à sortir. Casqués et bottés, harnachés de cuir, la matraque au poing, l'œil en pomme ronde. Du ventre encore chaud de la bête immonde, des monstres nouveaux sont prêts à sortir. Des monstres enfants rêvant d'un autre âge, de la fumée bleue d'Auschwitz et d'Achaux. Quant au nom déjà d'un ordre nouveau, 6 millions de morts quittaient nos rivages. Des monstres enfants rêvant d'un autre âge, de la fumée bleue d'Auschwitz et d'Achaux. Plutôt Hitler que le Front populaire, lisait-on déjà dans certains journaux. La Waffen-SS et la Gestapo de la liberté faisaient leur affaire. Plutôt Hitler que le Front populaire, lisait-on déjà dans certains journaux. Du ventre encore chaud de la bête ignoble, des monstres nouveaux sont déjà sortis. Ils ont massacré l'espoir du Chili, ils ont torturé la chair la plus noble. Du ventre encore chaud de la bête ignoble, des monstres nouveaux sont déjà sortis. Frère, attention, c'est par temps de crise que de la misère, elle peut surgir. La matraque au poing, harnachée de cuir, nourrie par l'argent et par la bêtise. Frère, attention, c'est par temps de crise que de la misère, elle peut surgir. À l'Est, 20 millions des enfants d'octobre sont morts en soldats pour la contenir, pour nous inviter à nous souvenir. Ne me demandez pas d'être plus sobre. À l'Est, 20 millions des enfants d'octobre sont morts en soldats pour la contenir. Pour nous délivrer des camps de la honte, écraser la bête jusque dans Berlin. Plus tard sont venus les Américains Et à Nuremberg, on a fait les comptes. Enfin délivrés des camps de la honte qui pourraient renaître si l'on y prend soin. Du ventre encore chaud de la bête immonde, le monstre nouveau s'apprête à bondir. La matraque au poing, harnachée de cuir. Frère, attention, tout autour du monde. Du ventre encore chaud de la bête immonde, le monstre nouveau ne doit pas sortir.
Je suis, comme toujours, chaque fois que j'aborde ce sujet, je suis ému. Nous avons attendu 20 ans, je pense, d'autres davantage, à parler de la résistance, de ce combat que nous avons mené. Il y avait cette période de deuil à traverser parce que tant des nôtres sont tombés. J'ai attendu, je crois, 25 ans à écrire mon premier livre sur la résistance. Et à mesure que les années passent, je réalise cette responsabilité qui est celle des anciens de cette période de la résistance pour laisser un témoignage, pour expliquer comment les choses se sont passées. C'est ce que je vais m'efforcer de faire en ce moment. Ça évoque beaucoup de souvenirs, beaucoup d'images, beaucoup d'émotions et aussi beaucoup de douleurs. Je voudrais situer un peu le contexte dans lequel tout s'est enchaîné. Il y a eu cette période de 1936 où c'était l'euphorie. C'était la victoire du Front populaire en France, c'était la victoire du Front populaire en Espagne, c'était une alliance franco-soviétique très forte. Nous étions conscients de ce que représentait la menace du nazisme. Hitler était déjà au pouvoir depuis 1933. Notre culture, notre action politique s'est la nature antifasciste de ce combat. Et c'est ce que je voudrais particulièrement souligner, parce que ensuite sont venues les années noires où tout a basculé et où ce pays qui est le nôtre s'est effondré. Je voulais dire que à partir du moment où Franco a attaqué l'Espagne, où les républicains ont été battus, nous nous sommes trouvés en présence de ce désastre, puisque dans mon département, dans ces régions du Quercy, nous avons reçu beaucoup de réfugiés espagnols. Nous avons organisé une solidarité très efficace, mais déjà, nous avions le visage de la guerre. Et en 1938, ce fut les accords de Munich. Munich, ce désastre diplomatique. Munich, cette ville où Daladier pour la France et Chamberlain pour l'Angleterre allèrent là-bas discuter avec Hitler et lui livrer la Tchécoslovaquie. Vous y imaginez cette honte ressentie pour nous Français, le porte-parole de notre pays qui va négocier le sort d'un pays, l'invasion d'un pays, sans que ce pays soit représenté. La Tchécoslovaquie fut vendue à Hitler. Et c'est à partir de ce moment, puisque la Tchécoslovaquie, c'était les frontières de l'Union soviétique, à partir de ce moment, tout a basculé. Et les Russes, dans un esprit de défense, on les comprend ou on ne les comprend pas, mais à partir du moment où cette alliance franco-soviétique était détruite, ont engagé à leur tour des discussions avec Hitler. Et il y a eu ce qu'on a appelé le pacte germano-soviétique. Voilà comment on a donné le cadre de ce qu'allait devenir cette Seconde Guerre mondiale. Je dois dire que jusqu'à ce moment-là, le Parti communiste français avait mené une action très forte, d'une part contre Munich. J'ai là la brochure avec le discours de Maurice Thorez qui dénonce hautement et avec force cette trahison. Il y a eu les députés communistes. Nous avions 72 députés communistes depuis la victoire du Front populaire et ces députés avaient voté les crédits militaires. Les communistes ont répondu en 1939 à l'ordre de mobilisation. Seul, plus tard, Maurice Thorez, qui était le secrétaire général du Parti communiste, a quitté l'armée sur injonction de l'Internationale communiste et parce que il allait être arrêté. Et j'ai eu des discussions après-guerre avec Maurice Thorez qui m'a expliqué combien cette décision avait été pour lui douloureuse. Mais à ce moment-là, l'international communiste, Moscou, c'était des zones prioritaires et il fallait obtempérer de gré ou de force. Et Maurice Thorez me disait, j'aurais préféré, s'il avait fallu que de toute façon je passe dans la clandestinité, me trouver à la tête de mon parti, le Parti communiste français, en France. Et bien sûr, Maurice Thorez, je me souviens de cette période où il était recherché. Ça faisait la une des journaux. On a tué son frère, à défaut de pouvoir le fusiller lui-même. On a tué son premier secrétaire. On a tué des dizaines de camarades, soit de sa famille, soit de ses amis. Mais voilà, l'histoire, comment qu'elle se déroule. Voilà la vision des choses, comment qu'elle se présente. Parce que tout ce que je viens de dire, ça a justifié, ça a motivé la décision du président du gouvernement Édouard Daladier de dissoudre le Parti communiste français. Il y a eu la dissolution du Parti communiste français. Il y a eu la chasse aux communistes. Il y a eu des milliers d'arrestations. Sur ces 72 députés communistes, 24 ont trahi. Parce que quand les difficultés viennent, quand il n'y a que la prison qui vous attend, il y a ceux qui tournent leur veste. Et 24 députés communistes, à ce moment-là, ont pris ce chemin de tourner leur veste. Je dois vous dire que, à ce moment-là, avec les événements, nous qui nous sentions traqués, qui nous sentions sous la menace d'une arrestation, ces renégats, c'est les premiers que nous avons marqués de notre haine. C'est là, je pense, que j'ai appris ce que c'est que la haine. Voyez, on est quand même conditionné par les événements, mais il reste ces souvenirs. Dans un moment de difficulté, lorsque ceux qui sont les vôtres vous trahissent, comme l'ont fait ces 24 députés qui avaient eu la confiance du peuple en tant que candidat communiste, c'est quelque chose qui est resté au fond de ma mémoire. Et je rappellerai que sur ces 24 députés communistes, seuls trois, ont voté pour la République le 10 juillet 1940, lorsque Pétain a détruit cette République. Trois députés sur ces 24. C'était Fouchard, le député de Seine-et-Marne, c'était Jardon, le député de l'Allier, et c'était Nicot, le député de l'Aisne et ses camarades qui ont eu cet acte courageux, même si à ce moment-là, ils n'avaient pas compris l'enjeu de ce combat, je les remercie et je les salue. Et tous les autres députés, 44 députés communistes, ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés, ils ont été par la suite déportés en Algérie, et ils se sont retrouvés libres en 1943 en Algérie, alors qu'ils étaient détenus. Voilà un peu le cadre, l'enjeu, l'atmosphère de cette période terrible que nous avons vécue. Et il y a eu l'enchaînement des événements. Il y a eu, bien sûr, par Hitler, l'invasion de la Pologne, puisqu'il avait quartier libre, puisqu'il avait les portes ouvertes, puisqu'il avait le découvert pour faire, évidemment, réaliser ses projets et ses ambitions. Et à partir du moment où il y a eu l'invasion de la Pologne, la France a déclaré la guerre à l'Allemagne. Mais cette guerre, on a déclaré cette guerre sans vouloir la faire. Ça a été ce qu'on a appelé la drôle de guerre. Une drôle de guerre qui avait ce caractère que non seulement les unités militaires étaient immobilisées, non seulement c'était la fête dans les unités, on y chantait, on y buvait, on faisait le spectacle, mais on ne voulait pas se battre. Les officiers avaient reçu des instructions pour rester neutres. Par contre, lorsqu'il y a eu l'intervention de la Russie contre la Finlande, à ce moment-là, les Français, le gouvernement français, a envisagé d'envoyer un corps expéditionnaire en Finlande, ce qui n'a pas pu se réaliser parce que la Finlande a été battue. Mais voyez, on était en guerre contre l'Allemagne, mais on se préparait à faire la guerre contre l'Union soviétique. Voilà un peu l'image, voilà un peu l'atmosphère, voilà un peu les conditions dans lesquelles le communiste que j'étais a été traqué, s'est trouvé avec cette réflexion. Qu'est-ce qui se passe? Que dire de tout ce que nous voyons? Cette traque anticommuniste. Et nous étions, disons, très isolés. On nous avait complètement isolés de la population. Nous étions presque des pestiférés, parce qu'on disait les communistes défendent le pacte germano-soviétique. À partir de ce moment-là, ils sont devenus des traîtres. Et moi-même, je me rappelle que, à un repas de paysans, à une localité qui s'appelait Lavalette, là, au cours de ce repas, j'ai été pris à partie par des paysans, et c'est celui qui nous avait invités qui a pris la parole et qui a dit « Écoutez, ne continuez pas, laissez Roger Pastoury tranquille. C'est un orphelin de guerre, il a ses convictions politiques, il faut les respecter, parce qu'actuellement, on ne sait pas qui a tort ou qui a raison. » Je dis cela parce que c'est des phases très douloureuses de son parcours de vie. Et bien sûr, dans une telle situation, il s'est produit ce qui devait se réaliser. Il y a eu l'invasion de la France, il y a eu l'armée en déroute, il y a eu la capitulation. Mais je dirais que les soldats qui étaient bien commandés, qui étaient bien entraînés, certaines unités se sont bien battues, se sont battues courageusement. Et parmi ces soldats, il y avait les communistes, et en particulier Louis Aragon, qui était médecin et qui rappelle comment, avec le général de Gaulle et avec d'autres patriotes, ils ont essayé d'éviter ce spectacle de désolation qui était une capitulation sans avoir lutté. Voilà un peu ce qui a créer les conditions de la disparition de notre République. Un pays envahi, un pays occupé. Le 10 juillet 1940, Pete Pétain, qui fait voter la destruction de la République, qui fait voter l'État français, et ce qu'il y a de tragique dans cela, c'est que il n'y a eu que 80 parlementaires avec les trois communistes dont j'ai évoqué le nom, 80 parlementaires sur 900, je crois, qui ont voté contre Pétain. Et cette majorité d'élus, ce Parlement, ce Sénat et cette Assemblée nationale, c'était cette majorité du Front populaire de 1936. Voyez, mes amis, comment les choses évoluent, comment l'histoire se réalise et comment on voudrait effacer cette période parce que ça vous a marqué d'une tache indélébile. Voilà comment nous nous sommes trouvés, je me suis trouvé personnellement, le Parti communiste, une fois détruit, sa direction a été disloquée. Il y avait une direction à Bruxelles, il y avait une direction à Moscou, il y avait une direction à Paris, et il y avait des camarades, Frachon qui se trouvait à Limoges, et Tillon qui se trouvait à Toulouse, et nous qui étions complètement coupés de la direction du parti, qui étions complètement coupés de ses camarades. Nous avons appris par la suite que la direction de Paris avait engagé des discussions au début avec l'occupant pour faire reparaître l'humanité. Je pense que ça a été un geste malheureux. C'était Jacques Duclos, il faut donner le nom, Jacques Duclos qui était à la tête du parti, qui a joué un rôle extraordinaire dans la résistance, et Jacques Duclos qui était ancien combattant, qui n'avait pas vu ce label, disons, antifasciste du combat que nous menions, qui considérait que cette guerre, à partir du moment où il n'y avait pas l'Union soviétique, était devenue une guerre impérialiste, et à partir de ces dérives, on allait négocier avec l'occupant pour faire reparaître l'humanité. C'est une démarche qui a été condamnée à la fois par Maurice Thorez et par l'Internationale communiste. Mais il faut dire ces choses. Vous savez, je parle sans tabou, parce que les tabous, ça nous aide pas. Les tabous, ça nous aide pas à nous libérer de ce que nous sommes, de l'identité qui est la nôtre et du combat que nous avons mené. Et nous à Gignac, moi à Gignac avec les camarades de Brive, parce que j'étais en contact avec les camarades de Brive, nous étions donc coupés. Mais nous avions notre culture antifasciste. Nous avions ce travail de solidarité que nous avions mené pour les républicains espagnols. Et c'est à partir de là où le besoin d'agir est venu tout seul. J'avais 20 ans. C'était en 1940. J'étais aux jeunesses socialistes, j'avais été aux jeunesses socialistes à partir de 16 ans, j'y suis resté une année. Après, je suis passé aux jeunesses communistes en 1937, comme on l'a rappelé, et en 1938 au Parti communiste. Et ce combat antifasciste que nous avions mené nous donnait conscience de ce qu'il fallait faire. Ce que nous avons fait là-bas, c'est ce que j'ai fait personnellement, c'est premièrement sauver les livres de la bibliothèque de Gignac. Nous avions une bibliothèque très riche, avec des livres, avec des écrivains, avec Jaurès, qui était là présent, largement présent, et mon premier souci avec les camarades a été de planquer ces livres. Ces livres, nous les avons emmenés chez un camarade, à une remise qu'il avait, et puis nous les avons planqués dans du foin chez moi, dans la grange. D'ailleurs, ce sont ces livres, une partie d'eux sont conservés, et c'est ces livres qui sont précieux pour moi. Je les ai mis là-bas dans mon refuge, à la cave, ils sont à mon dos, et chaque fois que j'écris, j'ai ces livres qui ont échappé à ces événements que nous avons vécus, et qui sont victorieux avec moi. Ça a été mon premier travail. Le deuxième travail, ça a été évidemment un appel. Vous savez, les appels, c'était une sorte d'exutoire. C'était une sorte d'exutoire dans une atmosphère tragique. Tout le monde était pour la cessation de la guerre, pour surtout qu'on se batte pas. Surtout qu'on se batte pas. Pétain aurait eu fait des élections à ce moment-là, 95% de Français auraient voté pour Pétain. Ça, il faut bien le dire, il faut bien le souligner. La résistance est partie de loin. Il a fallu partir de cet état d'esprit, de cette conception de gens. Leur souci, c'était le retour des prisonniers, parce qu'il y avait 1 500 000 prisonniers. Mais je dois dire, en hommage à ces soldats qui, malgré tout, se sont bien battus, à ces soldats français, et il faut leur rendre hommage, que plusieurs dizaines de milliers d'entre eux ont déjà été tués au cours de ces combats. Et ça, il faut les saluer. Voilà. Alors j'ai fait ce premier travail. Ensuite, j'ai fait cet appel. Je me rappelle, c'était à un lieu, je cultivais ma vie, ça s'appelait Roudette. J'avais ma hoyo, j'avais mes instruments là, et puis à mesure que je cultivais cette vigne, que j'arrachais les ronces, je calculais ce qu'il fallait dire. C'est exutoire, il fallait parler, il fallait écrire, on pouvait pas parler, il fallait écrire. Et j'ai fait un texte. Vous savez que beaucoup de textes ont été faits, et que le texte le plus prestigieux, c'est celui du général de Gaulle. Parce que le général de Gaulle avait une autorité que je n'avais pas, bien sûr, que nous n'avions pas, tous ceux qui ont fait des textes à ce moment-là. D'ailleurs, ce texte, je suis encore à sa recherche, parce que je l'ai remis quelques mois plus tard aux camarades, et je voulais bien un jour qu'il réapparaisse quelque part. C'est encore une de mes lubies, un de mes fantasmes. Enfin, c'est comme ça. Alors j'ai fait ce texte où j'expliquais mon ressentiment, où j'expliquais, moi, orphelin de guerre, comment je pouvais pas accepter cette capitulation et comment il fallait envisager de sortir de cette situation et de se battre en définitive. Il y a eu tout cela. Il y a eu ensuite ce souci qui était le mien de pouvoir discuter, de pouvoir engager le dialogue avec ceux qui à ce moment-là ne comprenaient pas, avec ceux qui considéraient que j'étais ce communiste, que avec ce pacte germano-soviétique, tous ces gens qui voulaient la paix et tout, on indisposait cette atmosphère. Et alors, j'ai envisagé, et je l'ai réalisé, de créer un comité d'aide aux prisonniers de guerre. Ça a été ma première action en 1940. J'ai fait ce comité d'aide aux prisonniers de guerre, je suis allé voir le maire, monsieur Allard, je lui ai dit, voilà, il y a toutes les familles de la commune, presque toutes, qui sont frappées par cette situation, les leurs sont prisonniers de guerre, faut essayer de créer un relais avec eux, de créer une solidarité avec eux, et il faut constituer un comité. Et c'est à travers ce comité d'aide aux prisonniers de guerre que Pestouri, le communiste Pestouri, a retrouvé un visage serein auprès de ceux qui, la veille, comprenaient pas ma démarche ni mon comportement. C'est cela, ils ont dit, au moins, lui, il s'occupe de nous, au moins, lui, il s'occupe de nos prisonniers. Et j'ai engagé une correspondance avec ces prisonniers. J'ai écrit à une centaine de prisonniers de guerre, je leur écrivais comme ça, puisque j'étais le président de ce comité d'aide aux prisonniers, j'avais une autorité, et à partir de cette autorité, j'ai pu comme ça entreprendre un travail de résistant. J'ai pu gagner la confiance de ceux qui m'avaient marginalisé. Voyez que c'est très difficile, mais c'était une tâche qu'il fallait faire absolument. Et puis, quand il y a eu cette déroute de l'armée, quand il y a eu ces soldats qui sont venus chez nous, dans nos départements, dans le Lot, dans la Dordogne, dans la Corrèze, cette armée en déroute, vous savez, c'était un spectacle lamentable, lamentable de voir ces officiers qui partaient en voiture, qui abandonnaient les soldats, qui se trouvaient là à la merci de n'importe qui et de n'importe quoi. Et parmi ces soldats, il y en avait un Lucien Feyre. Lucien Feyre, que j'ai retrouvé, il était soldat, et avec lui, nous avons piqué des armes. Nous avons piqué des armes de cette armée en déroute, et nous les avons planquées à une maison qui s'appelait la maison des chouettes. Et ces armes ont servi ensuite à la résistance. Et en même temps, nous avons piqué une moto. C'était des cylindrés, c'était des motos de l'armée, ça tenait bon. C'est mon Lucien Feyre qui a récupéré ça, et moi j'ai récupéré le vélo que j'ai appelé dans un de mes livres le vélo de mes randonnées. Voilà, voilà un peu l'histoire, comment ça se réalisait. Et je vous dis, c'est la première aventure. Quand on parle d'un acte de résistance, c'est parti de là. Ça s'est constitué comme ça. Et puis après, il y a eu, ça s'est structuré. Après, il y a eu quelque chose qui m'a beaucoup marqué. C'est en fin d'année 1940. Je l'ai reçu que en fin d'année 1940. Nous avons reçu l'appel de Maurice Thorez, signé Maurice Thorez et signé Jacques Duclos. Je sais pas si, je pense que c'est eux qui l'avaient écrit, mais vous savez, dans les conditions de la clandestinité, à ce moment-là, on ne sait pas très bien comment ça s'est réalisé, mais cet appel, c'était le signal de la résistance. Et il était du 10 juillet 1940. Il a été daté du jour où la République a disparu, où cette assemblée de Vichy a voté pour l'institution de l'État français. Et cette lettre, cet appel de Maurice Thorez, il y avait deux phrases. La France veut vivre libre et indépendante. Jamais notre peuple n'acceptera de devenir un peuple d'esclaves. Ça, c'était la résistance. Ça, c'était le 10 juillet 1940, mais j'ai reçu cet appel que quelques mois plus tard. Mais pour moi, ça a été, disons, la lumière, l'éclairage, parce que je me demandais, ces camarades, qu'est-ce qu'ils pensaient, qu'est-ce qu'ils étaient devenus. Il y avait cette expérience de Paris, que j'ai appris d'ailleurs qu'à la Libération, avec cette entrevue avec les autorités allemandes, on ne savait pas trop comment les choses allaient se situer, et cet appel a apporté un peu la directive du parti qui était le nôtre. Et là, on s'est senti bien. On s'est senti français, on s'est senti patriote, et on s'est senti prêt à engager le combat contre l'occupant. Voyez que les mots, le poids des mots, la force des mots, voilà comment ça peut peser dans un choix, dans une décision. Et puis, après 1940, le deuxième semestre, presque le dernier trimestre, c'est là que j'ai pris contact avec la direction du Parti communiste et des jeunesses communistes. Ça s'est passé à ce moment-là. Ça s'est passé dans les conditions suivantes. J'ai reçu une jeune fille à Gignac, à la gare de Gignac, et elle m'a porté les directives. Elle m'a porté les directives de la direction du parti. Et c'est comme ça qu'on m'a confié la mission de devenir instructeur interrégional des jeunesses communistes, intercadre du Parti communiste. À partir de ce deuxième semestre 1940. Et là, c'était, qu'est-ce que ça voulait dire une interrégion? Ça voulait dire qu'en tant que jeunesse communiste, il fallait que je reconstitue l'organisation dans ces départements. Il fallait que, de même que pour le Parti communiste, en tant qu'intercadre, que j'aille frapper aux portes, qu'on aille frapper aux portes des camarades. Et vous savez, quand on va frapper aux portes, on vous ouvre votre porte ou on vous la ferme, parce que les événements ont suivi, l'idée peut avoir changé, c'était toujours un risque d'aller frapper aux portes, mais il a fallu commencer comme ça, il a fallu commencer à aller frapper aux portes pour mettre debout notre organisation. Et ça a été un travail très difficile, parce que moi j'étais à ce moment-là exploitant agricole. J'avais une exploitation agricole à Gignac, dans le Lot, j'avais 17 hectares. J'avais ma maman qui était très malade, j'avais mon frère prisonnier de guerre, et j'avais que ma grand-mère qui avait 88 ans. Voyez, et je partais, j'avais mon vraie identité, j'avais pas mes faux papiers à ce moment-là. J'étais toujours Roger Pestouri, exploitant agricole à Gignac-Lot, mais les camarades que je contactais, eux me connaissaient sous le pseudonyme de Maurice. Il savait pas d'où je venais, il savait pas qui j'étais. Et j'ai eu ces 8 départements. J'ai eu la Haute-Vienne, j'ai eu la Creuse, j'ai eu la Corrèze, j'ai eu le Cantal, j'ai eu le Lot et j'ai eu la Dordogne. Voilà comment, de 1940 à 1943, lorsque je suis arrivé à Lyon, voilà quelle a été ma sphère d'activité, avec cette activité des jeunesses communistes, cette activité au Parti communiste. Et au Parti communiste, il fallait établir ce qu'on appelait des biographies, parce que avec tout ce qui s'était passé, il fallait avoir la confiance des camarades. Et on faisait établir une biographie pour être certain que nous étions en présence de camarades qui étaient disposés à s'engager dans la lutte. Vous savez, c'est pas facile ces choses-là, c'est pas facile. Voilà, alors bien sûr, nous avons édité nos tracts, parce que qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait parler, il fallait mener une action de propagande par rapport à cette atmosphère qui régnait, à ce pétainisme qui était général, qui était majoritaire dans ce pays. Et qu'est-ce qu'il fallait pour ça? Il fallait écrire. Et ça a été un combat très difficile. La résistance, avant la résistance armée, a commencé par là. Mon expérience, c'est que à partir de la fin de 1940, j'ai récupéré une machine à écrire. J'avais été chercher cette machine à écrire dans une localité qui s'appelait Cornil. C'était à 30 kilomètres de Gignac en vélo, voyez, en vélo. Vous savez, la clandestinité, on ne savait pas trop ce que c'était. On aurait pu m'arrêter, dire qu'est-ce que vous faites de cette machine à écrire. Alors je l'ai amené à Gignac et j'avais un rucher. Il n'y avait plus de rue, il n'y avait plus d'abeilles. Et je planquais cette machine à écrire dans ce rucher chaque fois qu'elle n'était pas utilisée. Parce que en cas de rafle, d'arrestation, de perquisition, qu'on ne trouvait pas cette machine à écrire. Et il se trouvait que la nuit, j'allais récupérer cette machine à écrire. J'avais mis la grammaire dans le cou. Je disais pas que c'était pour la résistance. Je disais que c'était pour mon travail, parce que je disais que je travaillais à la Sécanaise, une société d'assurance, vous voyez. Et alors, toute la nuit, je tapais les stencils. Vous savez, c'est très difficile. Moi, j'avais appris à taper à la machine à l'école Pigier. Et ça m'a servi à taper ces stencils. Mais un stencil, on avait beaucoup de difficultés à avoir des stencils. Et quand la frappe allait mal, qu'un stencil était esquinté, c'était un vrai drame. Et ces stencils, je les amenais à Brive, où j'avais le contact avec les camarades. Et à Brive, eux, ils avaient ce qu'on appelait un appareil technique. Et cet appareil technique, Il y avait la Ronéo et on tournait nos documents, on tournait nos appels. Voilà comment, pendant près de 2 ans, j'ai fonctionné avec ma machine à écrire qui était planquée dans ce rucher, avec cette grand-mère qui faisait l'ignorante mais qui devait sans doute se douter de quelque chose, et avec cette volonté de pouvoir créer une structure d'organisation, de créer une force capable de dire. Et je pense que la résistance est parti de là. Et puis à un moment donné, nous nous sommes rendus compte que ça suffisait pas, qu'il n'y avait pas que les communistes qui avaient cette manière de voir, cette manière de juger, et il fallait aller vers les autres, vers ceux qui n'étaient pas communistes, mais vers ceux qui partageaient notre volonté d'organiser un système de résistance à l'occupation, de résistance à l'humiliation. Et c'est à partir de là que nous avons organisé le Front patriotique de la jeunesse pour ce qui concerne les jeunes et le Front national de lutte pour l'indépendance nationale. Ça a été créé début 1941, je dis bien début 1941, avant l'invasion de l'Union soviétique par l'Allemagne. Et c'est ces deux activités qu'il a fallu que je mène dans ces 8 départements dont j'avais l'autorité et la responsabilité. Et là, nous avons créé le Front patriotique de la jeunesse, nous avons créé le Front national, nous avons créé des bases solides, des bases durables, ça a beaucoup servi, ça a créé les conditions ensuite pour organiser les maquis. Il y a eu beaucoup de maquis dans ce département natal qui est le mien. Ça a été un peu l'apprentissage de la résistance. Voilà un peu ce combat que j'ai mené sous les directives du Parti communiste, de la jeunesse communiste. Je dirais que quand je suis rentré, quand j'ai pris contact avec les jeunesses communistes, j'étais à ce moment-là intégré dans l'appareil national des jeunesses communistes. J'étais un instructeur interrégional. Et comme toute l'organisation était disloquée, était détruite après l'interdiction du parti et des jeunesses communistes, qu'il a fallu tout reconstituer, nous avons dispersé nos camarades dans des interrégions ou à des responsabilités diverses pour écrire nos journaux et tout. Nous étions en tout 42 à cette direction nationale des jeunesses communistes. J'étais membre de ce qu'on appelle le Conseil national des jeunesses communistes en tant qu'instructeur. Et sur ces 42, à la libération, il a manqué 24. Il y avait ceux qui avaient été guillotinés, ceux qui avaient été fusillés et ceux qui ne sont pas revenus de déportation. Voyez, quand on a payé un tel tribut, 24 sur 42, c'est un deuil que vous portez pendant des années. Et c'est pourquoi, lorsque j'évoque ces propos, ma main a tendance à trembler, parce que ces camarades, c'était la jeunesse, c'était l'avenir du pays, c'était l'enthousiasme, c'était le combat, c'était Pestouri avec ses 20 ans. Et avec la flamme qui nous animait, avec nos utopies, avec, cette volonté d'échapper à l'humiliation. J'avais reçu une lettre des jeunes filles d'un lycée de Cahors qui me disait, nous voulons vivre, nous voulons exister, nous ne voulons pas nous détruire quotidiennement. Vous voyez un petit peu comment nous vivions ces choses en tant que jeunesse et en tant qu'histoire. Voilà un peu comment les choses se sont passées. Tout ça a fait que quand je suis parti le 2 mars 43, il y a eu les arrestations chez moi, et vu cette activité que j'avais menée, c'est Vichy qui m'a condamné le premier. C'est pas les Allemands. Les Allemands m'ont condamné à mort ensuite. Mais c'est Vichy qui m'a condamné le 15 juillet 1943 à 5 ans de travaux forcés et à la confiscation de mes biens, avec les camarades qui étaient complices de notre activité. Voilà, j'ai été condamné, et à partir du moment où j'ai été condamné, il y avait la Gestapo de Limoges et de Toulouse, il y avait la police, tout débarqué là-bas dans ma ferme. La ferme était investie, et il y avait la grand-mère qui recevait ces gens. Au début, ils avaient la précaution d'aller chercher le conseiller municipal pour qu'il y ait une présence. Et la grand-mère a dit à Henri, tu peux rester chez toi, moi je suis capable de les recevoir. Et la grand-mère a reçu ces gens. Ils ne passaient pas de moi sans qu'il y ait une perquisition, sans qu'on aille voir si je revenais. Voyez comment les choses se font. Elle a été extraordinaire, cette grand-mère. Et elle a réussi qu'on n'a pas trouvé mes livres sous le foin. Et perquisitionné au grenier, il dit, faites attention, parce que mon petit-fils, il était très arrangé, tout ça. Il dit, mais il est en Angleterre, votre petit-fils. Et la grand-mère disait, mais si vous le savez, pourquoi vous me le demandez? Voyez, quand on parle de résistance, ça aussi, ce sont des actes de résistance. Mais je dis cela parce que on fait les fiers comme ça, on se croit, au-dessus, si on a la peur existe aussi, mes amis. La peur, c'est un sentiment que on peut pas maîtriser, ces choses-là. Moi, j'ai eu trois peurs. Vous savez, à 20 ans, c'est pas comme les copains qui étaient nos aînés, dont beaucoup s'étaient échappés, ils étaient prisonniers de guerre, ils se sont échappés d'Allemagne pour venir s'engager dans la résistance. Ceux-là, ils avaient des femmes, des enfants, ils avaient des responsabilités. Nous, on était les jeunes, on n'avait rien. Vous savez, la vie, la mort, c'était presque, disons, un mirage des choses. Vous savez, les événements, on était préparés à ça. On était préparé à être fusillé. Moi, j'avais dit, si t'es fusillé un jour, tu diras pas vive la jeunesse communiste ou le parti ou vive la France, tu diras maman, parce que j'avais soigné ma maman, et cette maman était restée au fond de mes pensées. Vous voyez, mais il y a quelque chose, quand je parle de la peur, il y a eu trois phases. Premièrement, quand je soignais ma maman. Le médecin, je vois toujours le médecin qui m'appelle, et c'était une maison de campagne, et on n'avait qu'une chambre, et il m'appelle sur le bord du chemin, il me dit, c'est fini, votre maman, elle est perdue, ça va durer un mois, 6 mois, 1 an, mais elle est perdue. Vous savez, quand vous avez 20 ans, quand on vous dit ça, que c'est cette maman que vous soignez avec le frère prisonnier, et j'avais peur, chaque fois que je prenais le train ou ma bicyclette, j'avais peur d'être arrêté avant que ma maman ne parte. C'était terrible, ça. Je disais, pourvu qu'on ne t'arrête pas. Parce que ça aurait été terrible, cette maman qui demandait toujours mon frère, qui était prisonnier de guerre, cette femme qui était ma mère, c'était pas moi qui comptais, c'était le retour de son fils qui était prisonnier de guerre. Et la chance a fait qu'elle est décédée en septembre 42. Et moi, je suis parti en 43 et j'étais condamné au travail forcé qu'en juillet 43. Vous voyez l'histoire. Mais il y a cette peur. J'avais aussi la peur, quand je suis arrivé à Lyon, la peur d'être guillotiné. J'avais un camarade, quand je suis arrivé, Émile Bertrand, qui avait été arrêté, qui a été guillotiné à la prison Saint-Paul à Lyon. Et ça m'avait beaucoup marqué. Il y avait des camarades qui avaient été guillotinés à Nîmes aussi. C'était mes camarades, c'était mes frères de lutte, de combat. Et moi, être guillotiné, vous savez, être fusillé, on était préparé. Mais être guillotiné, vous savez, j'ai une culture chrétienne, moi. J'ai une culture laïque, j'ai une culture chrétienne et je suis communiste, vous voyez. Et c'est tout ça qui représente l'homme que je suis. Le personnage qui vous parle actuellement. Et alors, cette culture chrétienne, je disais, mais si on te transcende, si tu n'es plus entier, le ciel, la terre, on conquiert tout avec nos utopies, avec nos fantasmes, avec la spiritualité des choses. Et être transcendé, ça, j'avais peur de ça. Vous voyez comment la trouille vous secoue des fois. Et j'avais une troisième peur, c'est en cas d'arrestation qu'on me crève les yeux. Parce que j'avais des camarades qui en avaient eu plusieurs cas. C'est pas les Allemands qui faisaient ça, c'est la milice qui faisait ça. C'est la milice. Et moi, mes yeux bleus, mesdames, vous comprenez ce que je veux dire. Hein, j'avais besoin de ces armes pour discuter avec vous et pour vous convaincre et pour et essayer d'engager mes petites aventures. Et voilà, j'avais cette peur. Voilà comment ces choses naturelles qui relèvent de l'homme, qui relèvent de l'individu, mais ça fait partie de la résistance, ça fait partie des personnages que nous étions en ce moment. Alors c'est tout cela qui a fait que à un moment, on m'a demandé de quitter Gignac. J'étais appelé à de nouvelles responsabilités.
Au nom du front parfait, profond, au nom des yeux que je regarde et de la bouche que j'embrasse pour aujourd'hui et pour toujours, au nom de l'espoir enterré, au nom des larmes dans le noir, au nom des plaintes qui font rire, au nom des rires qui font peur, au nom des rires dans la rue, de la douceur qui lie nos mains, au nom des fruits couvrant les fleurs sur une terre belle et bonne, au nom des âmes en prison, au nom des femmes déportées, au nom de tous nos camarades martyrisés et massacrés pour n'avoir pas accepté l'ombre, il nous faut drainer la colère et faire se lever le fer pour préserver l'image haute des innocents partout traqués et qui partout vont triompher. Thank you.
Thank you.